Bonjour à tous, il est 10h, il est donc temps de commencer cette série de cours que cette année je souhaiterais consacrer au parfum de l'Antiquité. Comme vous le savez, cette maison présente à tous les recherches en train de se faire au cours de l'année universitaire 2011-2012, particulièrement entre mai et juin 2012, j'ai été amené à donner une série de cours sur l'énergie dans l'Antiquité, car ces dernières années, j'avais eu l'occasion de fouiller un certain nombre d'installations liées à la mise en œuvre de l'énergie hydraulique. Et cette année, j'ai changé un peu de voie, mais toujours en restant en prise directe sur la recherche. Et je me consacrerai au parfum parce que j'ai eu l'occasion de fouiller à partir des années 1995 jusqu'à cette année même un certain nombre d'installations de parfumeurs antiques dans l'île de Délos, dans la cité de Pestum et à Pompéi pour les fouilles les plus récentes. Et avant de présenter ces recherches elles-mêmes et donc les opérations de terrain, il m'a paru évidemment nécessaire de replacer ces travaux dans les recherches en cours sur les parfums de l'Antiquité, que ce soit la production, bien sûr, qui m'intéresse directement, mais aussi le commerce, les usages, etc. C'est la raison pour laquelle nous allons attaquer aujourd'hui par une introduction générale sur, en quelque sorte, qu'est-ce que le parfum et qu'est-ce que le parfum de l'Antiquité. Et puis, nous continuerons dans les cours suivants sur les usages pour enfin arriver à la production et à l'archéologie de la production. Nous ferons, c'est un cours de 2 heures, c'est effectivement un peu long et chargé, donc je propose de faire à peu près 5 à 10 minutes de pause entre vers, disons, 11h moins 5, 11h05. Et donc, ça se présentera en 2 parties. La première question qu'il faut se poser, avant d'aborder le sujet lui-même, c'est qu'est-ce que la nature du parfum, de façon à comprendre son importance dans l'histoire. En fait, les odeurs, comme vous le savez, sont des molécules volatiles qui arrivent dans une zone du nez assez profonde qui transmet l'information dans la partie la plus ancienne de notre cerveau. Le monde des émotions est généré par les odeurs qui nous indiquent instantanément la présence de nourriture, la présence de substances toxiques, la présence de prédateurs. Les bonnes odeurs, éodia, comme on disait en grec, sont celles de la nourriture et des fleurs, et les mauvaises, celles de la putréfaction et des toxiques. De façon moins consciente pour les hommes d'aujourd'hui, les signaux chimiques permettent aux individus de chaque espèce de communiquer à l'intérieur de leur propre espèce et entre les espèces. C'est ainsi que l'olfaction est le moyen de communication primordial de l'enfant vers sa mère, qui lui permet de reconnaître dès sa naissance et de s'orienter vers le sein maternel pour se nourrir. De même, les odeurs corporelles des proches parents sont distinguées aisément de celles d'individus étrangers à la famille. Des études récentes tendent à montrer que les individus sont attirés par les odeurs d'individus de l'autre sexe ayant un patrimoine génétique différent sans être trop éloignés. Déjà, Lucrèce, dans le De Rerum Natura, au livre 3, vers 220, avait postulé que les odeurs, je cite, « naissent en grand nombre de germes minuscules épars dans toutes les substances des corps ». Et en fait, ces molécules aromatiques sont des espèces de clés qui ouvrent des serrures spécifiques, en l'occurrence les cellules du bulbe olfactif, qui sont très innervées. Serrures et clés sont très subtiles Le cumin a la même structure que la molécule de la menthe, par exemple, mais avec une symétrie inversée, et nous sommes pourtant capables de les distinguer à coup sûr. Les odeurs du corps transportent une information qui provoque un stimulus réflexe. Chez les animaux aussi proches que nous que les singes, les sécrétions de substances grasses odoriférantes servent à communiquer par phéronome avec les individus de la même espèce, donc surtout entre mâles et femelles. Mais dans l'espèce humaine, le phénomène est beaucoup plus compliqué du fait du développement extraordinaire de notre cerveau et de notre conscience et du fait des cultures que nous avons développées au cours du temps pour bâtir les sociétés qui permettent à des groupes d'hommes de vivre ensemble dans une relative harmonie. Si l'on résume les conclusions de Stoddart, qui a publié en 1990 un ouvrage assez connu qui s'appelle « The Scented Ape, Biology and Culture of Human Odor » à Cambridge University Press. Selon Stoddart, donc, l'homme est un singe et qui est très fortement émetteur d'odeurs. Il produit des sécrétions, notamment une sueur au niveau des aisselles, qui est un signal sexuel pour l'autre sexe. Les hommes partagent avec les chimpanzés une hypersexualisation qui entre en conflit avec la nécessité biologique de créer une structure familiale pour s'occuper longtemps des petits. Cette tension aurait provoqué la réduction de la communication sexuelle à un seul partenaire. L'espèce humaine est bien loin de résoudre culturellement l'opposition entre le comportement originel de promiscuité sexuelle et un comportement éthologique acquis, plus récent que le premier, qu'il a fallu adapter pour créer des sociétés. Cette tension est perceptible dans le désir de séduire, mais à l'intérieur de règles sociales, comme l'ont montré très clairement Mesdames Boudiou et Mel dans un article qui est paru assez récemment, qui s'appelle « Sociologie des odeurs en pays grec », paru donc dans un recueil qui s'appelle « Parfums et odeurs de l'Antiquité » en 2008 aux presses universitaires de Rennes. Elles établissent qu'en Grèce ancienne, le parfum caractérise la femme mariée par rapport à la jeune fille, la parthénos. Seules les femmes mariées ont la légitimité de s'en servir pour attirer leur mari et remplir par leur séduction leur devoir, c'est-à-dire donner des enfants et donc des guerriers à la cité. Il s'agit à la fois de dissimuler ces odeurs corporelles, signaux trop évidents, et de suggérer le désir par des parfums artificiels. Les substances biochimiques sont détectées par le système olfactif et certaines odeurs sont particulièrement agréables, excitantes, car agissant sur le pouvoir de séduction, le préparant, tout en masquant son caractère trop brutalement animal. Cela explique l'attrait que nous avons, dans certains parfums, pour des senteurs animales telles que le musc, l'ambre gris, la civette, mais aussi des senteurs qui s'en rapprochent, comme le nard, par exemple. Cette fonction liée à l'attrait sexuel est la fonction de base du parfum, selon moi. Toutes les autres en découlent, même si, comme nous le verrons, les attestations textuelles, épigraphiques et archéologiques privilégient les autres fonctions. Mais à mon avis, il s'agit comme souvent d'un effet de source. Certaines autres substances non alimentaires sont considérées comme appréciables. Pourquoi ? Les sociétés primitives ne fabriquent pas de parfums, mais elles utilisent des substances odorantes pour éloigner les insectes par des résines, pour guérir par des gras animaux, des fleurs ou des résines. L'oliban, par exemple, est une résine riche en terpènes qui éloigne les bactéries et les insectes. La cannelle est échauffante et stimule les fonctions cardiaques, circulatoires et respiratoires. La myrrhe est un onguent anti-inflammatoire et antimycotique qu'on a par la suite utilisé pour l'embaumement. Et ainsi, la résine est entrée dans le monde du symbolisme de préservation et d'éternité. Une seconde fonction de base des parfums est donc de soigner et de préserver et, par voie de conséquence, de rendre grâce aux divinités pour toute aide ou guérison. Les substances odoriférantes, principalement les parfums, servent donc à éloigner les insectes et les micro-organismes, à soigner le corps et à favoriser la reproduction. Elles ont été, au fil du temps, sélectionnées et combinées. Leur utilisation s'est peu à peu codifiée, à la fois pour certaines pour attirer le sexe opposé, pour d'autres pour rendre grâce aux dieux, et tout cela bien au-delà de tout processus logique et avec un effet immédiat. La fonction symbolique et religieuse des parfums s'est donc développée sur ce substrat, prenant des formes typiques telles que les fumigations avec les bois odorants ou les résines comme l'encens, ou des onctions de statues de culte, de prêtres, d'animaux à sacrifier. C'est donc la troisième fonction du parfum. La spécialisation et la complexification grandissante des parfums ont nécessité des réseaux d'échange de plus en plus développés pour s'approvisionner en matières premières, notamment exotiques, pour se fournir en produits finis, plus ou moins luxueux. En effet, lorsque l'usage des parfums s'est peu à peu répandu dans l'ensemble de la population, surtout à partir de la fin de l'archaïsme et durant l'époque classique, il s'est créé une hiérarchie fondée sur la rareté des ingrédients et sur la complexité des recettes, afin que puissent se distinguer les parfums de luxe des parfums communs, fabriqués, eux, à base d'ingrédients locaux. Car la quatrième fonction du parfum est d'être un marqueur social, un statut symbole. Utiliser des parfums et avoir une chevelure longue, soignée et parfumée était pour les hommes de l'époque archaïque le signe olfactif et visuel de l'appartenance à l'aristocratie. Un demi-millénaire plus tard, cela ne suffisait plus. Il fallait que le parfum soit fait de substances exotiques, que sa recette soit compliquée et à la mode la plus récente. Il était un signe de richesse individuelle, mais aussi collective. À Agrigente, au 5e siècle avant Jésus-Christ, d'après Diodore, livre 12, paragraphe 82-8, le luxe dans lequel vivent les habitants était manifeste. Ils portaient des vêtements efféminés, des objets d'or, des strigiles, et utilisaient des parfums de prix, conservés dans des flacons en or. Mais les villes de Syrie, par exemple, n'étaient pas en reste au IIe siècle avant Jésus-Christ, selon Posidonios d'Apamée, rapporté par Athénée 12:35, qui citait le livre 16 des histoires de Posidonios. Et je cite le passage. « Les gens de ces cités qui bénéficiaient d'une surabondance de terre étaient loin d'être dans le besoin, d'où l'habitude qu'ils avaient de se retrouver entre eux et de festoyer sans cesse. » En utilisant le gymnase comme s'il s'agissait d'un bain public, ils se parfumaient d'huile et de parfums aux essences rares et se vautraient dans des grammateia. C'est ainsi qu'on appelait leur salle de banquet. Dans des grammateia comme si c'était leur vrai foyer. Toute la journée se passait dans ces lieux où ils se remplissaient avidement la panse de vin et de mets de toutes sortes qu'ils ramenaient ensuite chez eux. Ce luxe collectif qu'on retrouve dans la Rome victorieuse de la fin de la République et du début de l'Empire, et le luxe individuel où chaque aristocrate essaie de dominer ses semblables par des parfums toujours plus complexes ou des usages toujours plus extravagants, se manifeste donc tout au long de l'histoire. Et on voit par exemple que Néron, à qui Othon avait appris à soindre la plante d'épée, se laisser aller à ce raffinement qui était considéré comme excessif et qui est rapporté par Pline au livre 13, paragraphe 4. Nous passerons donc en revue dans un prochain cours les différents usages des parfums dans leur incarnation dans l'histoire, notamment au cours des banquets, et leur évolution donc tout au long de l'Antiquité classique. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur les matières premières, les centres de fabrication et leur évolution entre la période orientalisante grecque et la fin de l'Antiquité. Il s'agit donc de présenter le cadre des connaissances acquises afin de pouvoir situer les recherches en cours et définir les lacunes. Avant toute chose, il faut que nous examinions quelques questions méthodologiques concernant la documentation disponible. Commençons par les textes. Comme tout secteur économique de l'Antiquité, notre documentation écrite est extrêmement lacunaire et biaisée. La littérature technique se résume au traité fondamental de Théophraste, des odeurs, Deodoribus en latin, à celui de Dioscoride sur des matériaux médicaux, sur les plantes aromatiques, sur les plantes médicales, et à certains livres de l'encyclopédie de Pline. C'est déjà le cas de la littérature de la Mésopotamie. À l'exception des recettes médio-assyriennes que nous évoquerons tout à l'heure, tous les documents qui concernent les parfums sont des textes commémoratifs ou religieux, et les archives ou des archives comptables, comme celle de Marie, qui donne des noms et des quantités, mais qui ne permettent pas de reconstituer des recettes ni de déceler l'origine des aromates, sauf exception. Les exceptions, ce sont donc les recettes assyriennes du XIIe siècle, qui font partie d'une catégorie de documents un peu à part, qu'on dénomine en allemand procéduralen Text, et il y a un article de Jursan en 2004 à ce sujet, documents qui incluent des rituels, des recettes de cuisine et des procédés techniques comme celui de fabrication du verre, par exemple. Cette littérature technique exceptionnelle, qui était destinée à conserver les règles de fabrication traditionnelles, à enseigner aux ouvriers, on ne la retrouve plus guère par la suite. Pour en venir à la littérature classique, il nous faut rappeler qu'Aristote, dans le De Sensibus 442b26 et suivant, s'est lui déjà intéressé à la théorie des odeurs, mais il ne l'a ni approfondi ni détaillé. Il se contente de prendre parti contre certains pythagoriciens qui soutenaient qu'il existait des animaux se nourrissant d'odeurs, et il affirme la différence entre la saveur qui entre dans le champ de la nutrition et l'odeur qui, s'adressant à la tête, concourt à la bonne santé de l'homme en empêchant le cerveau de se refroidir. Nous verrons que cette théorie explique en partie le rôle que les médecins attribuaient au parfum. Mais c'est le disciple d'Aristote, Théophraste, qui, dans son ouvrage sur les odeurs, nous donne un tableau d'ensemble des processus et des bases de la parfumerie, sans toutefois entrer dans le détail des recettes, car ce n'est pas son sujet, puisqu'il traite, si vous voulez, de la théorie, mais il n'écrit pas un manuel de parfumeur. Théophraste, traitant systématiquement le sujet, commence par les odeurs animales, au paragraphe 4, distingue l'olfaction du goût, au paragraphe 5, puis traite des odeurs naturelles des plantes, avant d'en venir aux odeurs obtenues par l'art, par la techné, qui permet donc de fixer ces odeurs sur des huiles. Il examine quelles plantes sont utilisées pour fixer les odeurs et quelles en sont les applications thérapeutiques. C'est d'ailleurs sur ce plan que l'ouvrage qui, pour ceux qui travaillent sur les parfums dans l'Antiquité, est essentiel, l'ouvrage de Dioscoride, va insister. Le premier livre effectivement de Dioscoride, donc sur les plantes médicinales, est le seul texte qui nous donne des recettes précises. Dioscoride fut probablement médecin de l'armée romaine dans le second quart du 1er siècle, car dans sa préface, au paragraphe 4, il évoque sa vie militaire, et donc on peut imaginer qu'il avait donc commencé sa carrière comme ceci. Le livre 1 est entièrement consacré aux huiles parfumées qui sont présentées par leur nom, qui donnent la recette et qui ensuite déclinent tous les emplois médicaux. Les parfums y sont nommés d'après l'ingrédient principal, c'est-à-dire la rose, par exemple. En général, ce sont des noms de fleurs. Le seul qui fait exception, c'est le Mendésion, qui a une origine géographique, Mendès étant une ville du delta égyptien. En fait, le Mendésion était réalisé par un assemblage de myrrhe, de cannelle et de résine fixé sur une huile de benne, qui est une huile que nous retrouverons tout à l'heure, qui est une huile à base de Moringa peregrina, qui est un arbuste qui pousse en Égypte. Ensuite, nous avons comme ouvrage consacré au parfum, bien sûr, les livres 12 et 13 de Pline, qui offre un tour d'horizon des parfums, des origines, des prix des matières premières odorantes, des provenances et des compositions, des parfums qui étaient les plus courants et les plus célèbres de son temps, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère. Mais là encore, ce n'est pas un manuel et son ouvrage ne donne aucune formule qui pourrait être utilisable pour recréer des parfums, par exemple. Tout au plus, nous avons des listes d'ingrédients. Mais nous savons que plusieurs autres ouvrages étaient disponibles durant la période romaine, à tout le moins, enfin en tout cas la période hellénistique et la période romaine. Tout au plus, nous connaissons quelques titres de ces ouvrages qui ont été perdus et nous les connaissons grâce à Athénée, qui mentionne par exemple en 675 AE et en 676 un ouvrage de Philonides, un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait « Sur les parfums et les couronnes ». Un autre ouvrage d'Apollonios l'Hérophiléen de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, au paragraphe 688 E-689 B, qui s'appelle « Sur les parfums » tout simplement, et un troisième ouvrage d'un certain Apollodore, mentionné au paragraphe 675 E, qui s'appelait lui aussi « Sur les parfums et les couronnes ». Ça montre bien qu'il y avait une littérature relativement importante, qui nous échappe totalement, et bien sûr, nous n'en avons qu'une très faible idée, et raisonner aujourd'hui sur la littérature subsistante, évidemment, présente des lacunes. On trouve aussi de nombreuses mentions de parfums dans les traités de médecine, car les parfums, les résines et les huiles étaient largement employés par les médecins antiques, dont ils constituaient avec le vin l'essentiel de la pharmacopée. On en trouve mention dans les ouvrages médicaux, en commençant par le corpus hippocratique, en passant par Cels, et bien sûr Dioscorie, nous l'avons vu, puis Galien, Aesius d'Amida, qui est un médecin byzantin du VIe siècle, etc. Il y en a toute une série. Mais là encore, on a quelques indications sur les présupposées applications thérapeutiques des parfums, mais rarement des indications précises sur la composition de ces parfums. On trouve aussi des allusions à l'usage des huiles parfumées, également sur les parfums célèbres et sur les lieux de production, chez les poètes grecs et latins, dès les poètes de la Grèce archaïque, Hésiode, Archiloque, Sappho, Anacréon, on trouve des allusions précises à l'emploi des parfums, notamment pour la séduction, mais bien entendu aucune indication technique. Et il en va de même pour les poètes latins. Toutefois, nous verrons dans une séance ultérieure que l'insistance de 5 poètes, Ovid, Properce, Virgile, Martial et Ozone, sur les roseraies de plein champ de Pestum, témoignent, selon moi, d'une intense production de roses, au point que c'était devenu un lieu commun, et je crois qu'il faut relier ces productions à l'artisanat de la parfumerie qui se développait dans cette ville, et donc que j'ai relié avec la fouille qu'il m'a été donné de faire à Pestum. Enfin, quelques données sont à glaner, souvent en négatif, dans les écrits de Cicéron, de Sinèque, de Plutarque, et dans les sources juridiques rassemblées dans le Digeste. Mais au total, à part les visions d'ensemble que proposent Théophraste et Pline, notre information est très décousue, surtout sur les évolutions chronologiques, sur les productions et sur le commerce. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers les inscriptions ? Les inscriptions complètent certes le tableau, mais là encore très partiellement. Quelques-unes sortent de l'ordinaire, comme une épitaphe qui permet de connaître directement un des marchands arabes, minéens en l'occurrence, qui faisait le trafic des matières premières entre sa contrée d'origine et l'Égypte. Dans le Sérapéum de Saqqara, on a trouvé un sarcophage de bois qui porte une inscription en langue minéenne qui dit ceci: sarcophage appartenant à Zaïd ibn Zaïd du Zayran, qui procurait la myrrhe et le roseau au temple des Égyptiens au temps de Ptolémée, fils de Ptolémée, en l'an 22 du règne du roi Ptolémée. Dans un article écrit par Christian Robin en 1994, qui s'appelle « L'Égypte dans les inscriptions de l'Arabie », qui est paru dans les hommages à Jean Leclan donc dans cette année-là au Caire, le Robin propose que le Ptolémée en question soit Ptolémée VII et Vergète II, qui a régné de 146 à 117, soit Ptolémée X, Alexandre Ier, de 114 à 88 avant Jésus-Christ. Et donc là, nous avons le témoignage d'un trafiquant, d'un marchand d'aromates qui approvisionnait donc les temples. Et nous verrons tout à l'heure que les temples sont en Égypte l'un des lieux principaux de fabrication des parfums. Mais il faut faire ensuite un saut pour retrouver d'autres inscriptions intéressantes. Le corpus aujourd'hui le plus homogène et le plus intéressant, c'est celui des inscriptions latines qui mentionnent des parfumeurs. À ma connaissance, on en connaît 58 aujourd'hui dans le bassin occidental de la Méditerranée. Ils ont été étudiés plusieurs fois et assez récemment, notamment par Marie-Thérèse Rapsat-Charlier et Françoise Allais, puis par Marie-Louise Bonsangue et Nicolas Tran. Je n'insiste pas sur cette source car j'ai demandé à Nicolas Tran, qui est l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui de cette question, de venir la présenter dans un séminaire qui aura lieu le 28 novembre. Et ainsi, nous aurons l'occasion, après sa présentation, d'en discuter la portée et les informations qu'elle livre. Il suffira ici de dire que les inscriptions nomment principalement des unguentari. Et vous voyez ici un monument d'un unguentarius, Caius Popilius Antus, qui a visiblement vécu et travaillé à Rome. Donc, on a principalement des unguentari, c'est-à-dire les fabricants d'onguents, ces huiles parfumées, qui étaient vendues dans des flacons. On a aussi des inscriptions de turari, qui importaient et vendaient principalement des résines à brûler, notamment de l'encens. Et dans une moindre proportion, on trouve aussi des sepiasiari, on en connaît 11 inscriptions aujourd'hui, dont le nom provient de la place de Seplasia à Capoue, où étaient concentrés les parfumeurs. Vous savez que la ville de Capoue, au centre de la Campanie, est un grand lieu de fabrication des parfums, nous y reviendrons. Archéologiquement, on n'a jusqu'ici pas trouvé d'installation véritable de production de parfums dans cette ville, mais c'est la ville qui a livré le plus d'inscriptions de parfumeurs, et une des places de cette ville, qui n'a pas été encore retrouvée par les archéologues, était la place dite Seplasia, où étaient concentrés donc ces parfumeurs et ces vendeurs de drogue. Et enfin, on connaît 3 inscriptions de pigmentarii, dont on suppose qu'ils devaient vendre des épices, des colorants et des parfums. Ces inscriptions, qui datent pour l'essentiel de la fin de la République romaine et du début de l'Empire, mentionnent surtout des affranchis et des esclaves. On en connaît 42, c'est-à-dire les 3/4 des inscriptions, alors qu'on connaît seulement 8 ingénus qui ont exercé le métier de parfumeur. Mais ce n'est probablement pas représentatif de la réalité, car on sait bien que les esclaves et les affranchis font plus souvent état de leur métier que les ingénus, dans la mesure où, n'ayant pas de statut juridique ou ayant un statut social et juridique inférieur, ils doivent souligner la nature de leur travail qui est le facteur essentiel de leur intégration dans la société. Esclaves et affranchis n'existent que par leur travail et que par les relations sociales qui sont créées par le travail. Il en va tout à fait différemment des hommes libres dont le statut de citoyen romain suffit à les poser dans la société et qui n'ont donc pas besoin de rappeler leur métier et qui même préfèrent ne pas le rappeler car, quelque part, leur statut de citoyen non seulement suffit, mais les affranchit en quelque sorte de ce monde du travail, même si ce sont des plébéiens qui travaillent, bien sûr. On voit donc tous les biais qu'impliquent ces documents qui nous renseignent que très partiellement, non seulement sur une partie très particulière des parfumeurs eux-mêmes, mais qui, évidemment, ne nous disent rien ou presque sur les lieux de fabrication et sur les procédés de fabrication. Au total, les inscriptions, quasiment toutes des épitaphes, nous apportent des enseignements sur le moment de passage de l'artisan de son statut d'esclave formé un métier à celui d'affranchi, suffisamment enrichi pour se faire élever un tombeau et affirmer sa respectabilité dans le monde des travailleurs indépendants et dans ce qu'on appelle la plèbe moyenne. Leur répartition est peut-être significative de grands centres de production et de commerce des parfums. En effet, on en trouve à Rome, en Campanie, à Capoue, bien sûr, qui est le grand centre, à Pouzzoles, qui est aussi un grand centre de fabrication, d'importation de matières premières et d'exportation de parfums, à Pompéi également, et on en trouve dans les provinces, principalement dans les grandes villes qui sont des centres d'échange, comme Narbonne, comme Lyon, comme Cologne, et aussi dans les places militaires, car, comme nous le verrons, les parfumeurs jouent le rôle de droguistes et de pharmaciens et ont donc doublement leur place dans les légions, d'une part comme fournisseurs de remèdes, mais aussi de fournisseurs de parfums pour enduire les statues et les aigles, d'encens pour les cérémonies rituelles. Et au-delà, bien sûr, fournir des parfums utilisables pour les soldats qui, comme nous le verrons, ne les dédaignent pas, eux qui vont fréquemment au bain et qui répandent cette mode des termes dans les provinces. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer donc, de ces inscriptions. Pour les raisons précitées, à la fois le petit nombre d'inscriptions et leur particularité sociale, on ne peut étudier ni la place des ingénus par rapport aux affranchis, ni leur véritable degré de fortune, ni l'évolution dans le long terme, puisque, comme nous l'avons vu, pratiquement, dès qu'ils cessent d'avoir le statut d'esclave ou d'affranchi, ils cessent de mentionner leur profession. Les inscriptions nous donnent donc quelques lueurs qui sont certes très utiles, mais qui n'éclairent ni les pratiques de la profession, ni sa place réelle. Il faut donc tenter de rééquilibrer nos connaissances en se tournant vers l'archéologie. Or, il faut bien dire que là aussi, nous faisons face à de forts déséquilibres. Il devait en effet y avoir des parfumeurs dans toutes les agglomérations, un tant soit peu importantes. Or, les archéologues ont bien du mal à les identifier. Nous verrons par la suite que, jusqu'à présent, pour toute l'Antiquité classique, nous connaissons seulement 6 ateliers de parfumeurs. Ils nous apportent beaucoup, notamment concernant les techniques employées, mais peu en ce qui concerne les régions de production. Certes, leur localisation, Israël, Délos, la Campanie, reflète des zones de production bien connues par les textes, mais n'est-ce pas en partie parce qu'on cherche les installations de parfumeurs dans ces régions particulièrement bien connues qu'on les trouve? Au total, ce seront donc les conteneurs, les flacons, qui vont nous donner l'information la plus continue et la plus massive. En effet, on les trouve partout. Et grâce à leurs pattes et à leur décor, on est désormais à même d'identifier les productions de telle ou telle région, de distinguer les importations des productions locales et de tracer les flux commerciaux et leur évolution. Je voudrais toutefois rappeler que, là aussi, la documentation disponible présente plusieurs biais dont il faut tenir compte. Le premier biais, bien entendu, est inhérent à la nature même de la documentation archéologique. Celle-ci est partielle, due au hasard, certes en augmentation constante, mais en augmentation désordonnée, inégalement répartie dans l'espace et dans le temps, difficilement accessible et quantifiable du fait de la nature des publications, de leur retard et du manque de banques de données. C'est un aspect que nous avons déjà abordé lorsque nous avons traité des vestiges liés à l'utilisation de l'énergie, et notamment de l'énergie hydraulique. Mais ce n'est pas seulement cet aspect majeur qui fausse les perspectives. Il existe des particularités dues à la nature des flacons à parfum. Les flacons à parfum donnent une information qui devient statistiquement fiable du fait de leur nombre grandissant, mais seulement ceux qui sont en céramique. Or, ce n'est pas dans la céramique qu'on transportait les parfums les plus précieux. Théophraste et Pline, après lui, précisent bien que les meilleurs conteneurs sont de pierre et de métal. Théophraste, dans le Deodoribus 41, indique que pour conserver les parfums au frais, car la chaleur et le soleil les corrompent, il faut, je cite, les conserver dans des conteneurs de plomb et des flacons en albâtre. En effet, le plomb et l'albâtre sont froids et compacts, et l'albâtre constitue le meilleur matériau pour la conservation des parfums. On trouve à peu près les mêmes recommandations chez Pline au livre 13, paragraphe 19. Je cite « Les parfums se conservent le mieux dans les vases d'albâtre, les odeurs se fixent dans l'huile qui assure d'autant mieux leur durée qu'elle est plus grasse, comme celle d'amande. Les parfums aussi s'améliorent en vieillissant, mais le soleil leur est funeste, aussi les laisse-t-on mûrir à l'ombre dans des vases de plomb. » Les vases d'albâtre sont bien attestés en Égypte par les découvertes et par des textes d'époque gréco-romaine. Les archives de Zénon, par exemple, les mentionnent à plusieurs reprises à la fin dans la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. Le papyrus Cairo Zénon 1, 59009D, contient une liste d'alabastres contenant divers parfums, dont du rhodinone, c'est-à-dire du parfum à la rose. Le papyrus Cairo Zénon 1, 59536, mentionne quant à lui 10 cotyles d'amaricone dans des alabastres, et le papyrus de la société italienne 4336-6, daté de 257, mentionne 10 unités de parfum à l'iris dans 21 alabastres. Ces flacons contenant des parfums coûteux égyptiens étaient exportés sur une vaste aire géographique. Ils furent importés à Athènes dès le VIe siècle, puis imité en marbre au IVe et IIIe siècle et aussi en céramique à fond blanc pour simuler la pierre. On en trouve aussi en Italie dès l'époque archaïque et ils furent imités en calcaire à l'époque classique hellénistique. Donc ça, c'est une première catégorie qu'on arrive toutefois à identifier car ces flacons de pierre se retrouvent principalement dans les tombes. Mais, comme nous l'avons vu, les parfums les plus précieux étaient conservés et commercialisés dans des flacons en métal, de plomb, certes, mais aussi de bronze, d'argent et d'or. Dans l'Odyssée, au chant 6, vers 79, Nausicaa, lorsqu'elle accueille Ulysse naufragé sur la plage, emporte avec elle un lécite d'or contenant une huile fluide dont Ulysse se frottera après le bain. Chez Diodore, livre 13, paragraphe 82, qui décrit, comme nous l'avons vu, le luxe d'Agrigente à la fin du Ve siècle, il nous dit que, donc, que les citoyens utilisaient des lécites d'or et d'argent. Après la bataille d'Issos, dans un célèbre passage rapporté par Athénée, Alexandre découvre la salle de bain équipée avec la salle de bain du roi de Perse, hein, équipée avec des flacons de parfum en or dans une pièce qui exsudait l'odeur des épices et des parfums. De la même façon, dans la fameuse procession organisée par Ptolémée II à Alexandrie dans les années 279-262 avant Jésus-Christ, des enfants transportaient des conteneurs en or contenant de l'encens, de la myrrhe et du safran. C'est rapporté par Calixène de Rhodes, toujours chez Athénée. Enfin, Antiochos Épiphane, à l'occasion des jeux qu'il donna à Daphné, fit une procession splendide où, entre autres, 200 femmes aspergeaient le public avec des parfums tirés de vases en or. Après l'ouverture des jeux, nous dit Athénée, durant les 5 premiers jours, chaque personne qui venait au gymnase était oint d'un parfum au safran porté sur des plats d'or contenant aussi de la cinnamome et du spikenard. On voit donc que chez les rois, chez les princes et des aristocrates, ainsi que dans les cités au moment de leur apogée économique, les flacons à parfums en métaux précieux étaient relativement fréquents. Il faut donc tenir compte de ce fait lorsqu'on tente d'étudier la diffusion des parfums dans une région donnée. On peut ainsi se demander si, dans certaines villes comme Athènes, au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, la rareté des arrivals en céramique n'indique pas qu'ils étaient le plus souvent faits de métal plus ou moins précieux, soit d'or ou d'argent, soit simplement de bronze, et qu'ils étaient donc remplis périodiquement. Donc toute cette partie nous échappe le plus souvent, car ces flacons, sauf exception lorsqu'ils ont été déposés dans des tombes aristocratiques, ces flacons ont été bien sûr récupérés, refondus, et la part, disons, la plus précieuse de ce commerce des parfums nous échappe de cette façon. Mais il y avait aussi, depuis l'âge du bronze au moins, des conteneurs en matière périssable, en bois, en corne et en cuir. L'utilisation de petites boîtes de bois cylindriques pour contenir des aromates et des parfums est attestée en effet dès le néolithique. Puis, à une époque évidemment plus récente, les archives de la colonie juive d'Éléphantine, par exemple, qui date de la fin du 5e siècle, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, rapporte que des flacons d'huile parfumée sont en bois ou en pierre, et dans des documents qui nous indiquent que les femmes de cette communauté s'enduisaient d'huile après le bain. Je vous renvoie à un ouvrage de Porten qui s'appelle Archives from Elephantine, The Life of an Ancient Jewish Military Colony, paru en 1968 à Berkeley. Un peu plus tard, on a un autre exemple de cette utilisation des conteneurs en bois dans l'épave de Pozzino Bay, qui est un navire qui a coulé dans le golfe de Populonia en Italie, épave qui a été découverte en 1989 et fouillée quelques années après, et qui est datée du dernier tiers du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce bateau contenait de la vaisselle à vernis noir en campanienna, des unguentaria en céramique, des coupes en verre, des lingots de plomb et une boîte renfermant 136 cylindres de bois qui contenaient des épices et, dans un cas, des espèces de pilules qui étaient probablement destinées à soigner des troubles, peut-être intestinaux. Mais les huiles parfumées pouvaient être aussi conservées dans des gourdes de cuir. Lors du siège d'Athènes par Sylla, Plutarque nous rapporte, dans la vie de Sylla 13.3, nous rapporte que, et je cite, « Tandis que le médimne de blé se vendait 1000 drachmes dans la ville et que les habitants se nourrissaient de matricaires qui poussent sur l'acropole et faisaient cuire pour les manger des semelles et des lessites de cuir, Aristion, qui était le tyran de la ville à cette époque, ne cessait de boire en plein jour et de faire la fête. » On voit donc que dans l'Athènes du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, il devait être relativement courant de conserver les parfums dans des lessites de cuir, c'est-à-dire dans des conteneurs souples, et notamment lorsqu'on devait se rendre à la palestre. Et il y en avait en tout cas suffisamment pour que ça puisse permettre de donner un peu de goût aux mauvaises herbes ramassées sur l'acropole et qui permettaient à la population de survivre durant le siège. Alors évidemment, on a beaucoup de mal à trouver ce type de vestiges d'un point de vue archéologique. Dans un ciste de Préneste qui est conservé au musée de l'Ermitage, on a trouvé une sorte d'aiguille qui pourrait être un applicateur de bronze pour parfum et un étui ajouré en bronze qui semble avoir contenu une enveloppe de cuir qui probablement avait contenu des parfums. Mais c'est le seul exemple pratique que j'ai pu trouver de ce type de conteneur qui devait être relativement fréquent. Enfin, nous savons par les textes que les riches romains se servaient également de cornes, notamment de cornes de rhinocéros, pour porter, lorsqu'ils allaient au bain, l'huile qui était nécessaire au massage. Et nous le savons par quelques passages des satiristes, et notamment de Juvénal, Satire 7, vers 129-123, qui nous dit « Tanguillus, lequel se rend au bain avec sa grande corne de rhinocéros et y gêne tout le monde avec son cortège crotté. » Mais, malgré ce biais considérable de la documentation, il faut toujours garder en mémoire, l'archéologue doit bien utiliser ce qui est à sa disposition. C'est-à-dire, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les flacons en céramique. Nous verrons dans un moment que c'est à partir d'eux qu'on tente de restituer les courants commerciaux des parfums à l'époque archaïque classique. Mais ces flacons, tous très décorés, sont-ils exportés pour eux-mêmes ou pour leur contenu? Ou étaient-ils transportés pleins ou vides? Plusieurs auteurs, notamment Virginia Anderson en 1987 et Camille en 1999, l'article de Virginia Anderson s'appelle « Chronology and Function of Ceramic Unguentaria » paru dans l'American Journal of Archaeology en 1987, et l'article de Camille s'appelle « Ampullae balsamari ceramici di età ellenistica romana » paru en 1999, ont avancé l'hypothèse, ou en tout cas l'idée, que la porosité des flacons de céramique imposait de les expédier vides et de les remplir à l'arrivée avec des huiles parfumées que l'on aurait transportées à part, notamment dans des amphores. L'hypothèse, pour intéressante qu'elle soit, doit selon moi être écartée. En effet, elle repose sur la constatation que les flacons sont poreux, mais les amphores aussi. Or, il y avait des traitements à faire pour rendre les parois étanches, peut-être à la caséine, par exemple. Et cette hypothèse pose plus de questions qu'elle n'en résout. Prenons l'exemple de Corinthe. Corinthe aurait expédié, d'une part, si on suit cette hypothèse, les flacons, donc les alabastres et les aribals corinthiens, qui sont bien connus, et d'autre part, l'huile parfumée, qui n'aurait pu être transportée donc que dans les amphores corinthiennes A. Or, nous sommes un certain nombre. Bruno d'Agostino, le premier, lorsqu'il a publié les tombes de Pontecagnano. Puis, plus récemment, Jean-Christophe Sourisseau et moi-même a pensé que les amphores corinthiennes A ne contenaient pas de l'huile, contrairement à ce qu'on l'a dit, mais contenaient du vin, pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. De plus, il est constant que le parfum se vend en flacons de petite dimension dès qu'il sort de l'atelier d'élaboration pour être vendu, car il y a un lien très fort qu'on retrouve encore aujourd'hui entre le contenu et le contenant. Donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire, cette hypothèse ne me paraît pas digne d'être retenue. Mais même si on considère, comme je le crois, que les découvertes de flacons sont bien le signe de commerce du parfum lui-même, l'apport de cette archéologie ne dépasse pas l'époque classique. En effet, dès la période hellénistique, la standardisation des flacons et la fabrication locale des parfums devient la norme. Et ensuite, à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère, la généralisation de cet incontestable progrès que fut le soufflage du verre ôte tout espoir de suivre le parfum à la trace. De la rareté des flacons de verre dans les épaves antiques et de la multiplication des ateliers secondaires de verriers dans toutes les agglomérations, on tire la conclusion que, pour l'essentiel, les parfums étaient produits localement durant l'Empire romain, c'est-à-dire pour l'essentiel, c'est-à-dire sans tenir compte, bien sûr, des parfums extrêmement précieux qui voyageaient soit dans la pierre, soit dans les métaux précieux. On est donc conduit à reconnaître que, sous l'Empire romain, les parfums, même orientaux, si on peut dire entre guillemets, devaient être réalisés en Occident par des parfumeurs qui utilisaient soit des recettes venues d'Orient, soit qui étaient eux-mêmes originaires d'Orient. Les produits eux-mêmes n'ont généralement pas laissé de traces évidentes, quelques grains d'encens brûlés sur les autels et des dépôts dans les flacons. Longtemps, ces témoins sont restés inaccessibles, malgré des essais parfois brillants. Ainsi, en 1847, la découverte d'une tombe du IIe siècle après Jésus-Christ à Saint-Médard-des-Prés, en Vendée, dans laquelle on avait trouvé un grand nombre de vases à parfum, certains contenant des substances qui étaient encore conservées, cette découverte a provoqué des analyses très pointues pour l'époque de la part de Chevreul, qui était chimiste de l'Académie des sciences et qui est le fondateur des principes de l'analyse organique et le découvreur des acides gras. Mais c'était un précurseur très ancien par rapport aux capacités qui se sont développées par la suite. Car cette possibilité d'analyse de ce qui est conservé parfois dans les flacons n'a atteint sa maturité que dans le dernier quart du XXe siècle. En pratique, elles n'ont été ni courantes ni performantes jusqu'à ces 15 dernières années. Quand je dis performante, c'est performante pour nous qui travaillons dans les sciences humaines, car c'est le développement et la démocratisation des techniques d'analyse par chromatographie en phase gazeuse et couplé aujourd'hui avec la spectrométrie de masse et d'autres techniques encore, qui permet d'identifier une partie des composants des parfums antiques, surtout les bases et les fixateurs, qui sont composés de molécules qui sont relativement lourdes. Je ne m'étends pas sur cette question maintenant, car j'ai invité l'un des meilleurs spécialistes de la question et des analyses chimiques archéologiques, qui s'appelle Nicolas Garnier, et qui viendra la semaine prochaine nous présenter l'état actuel des techniques et les résultats qu'on obtient, et à la suite de son intervention, au cours du séminaire, je lui poserai un certain nombre de questions et nous débattrons donc de ses avancées récentes. Ayant balisé les lacunes et les risques méthodologiques, et avant d'entrer véritablement dans l'époque gréco-romaine, il va falloir maintenant rappeler à grands traits nos connaissances sur le parfum pour les époques antérieures, c'est-à-dire pour le bassin méditerranéen, l'apport de la Mésopotamie, de l'Égypte et de l'Égée proto-historique, car, comme nous le verrons, l'acquis, principalement de l'âge du bronze, est fondamental à la fois pour les procédés de fabrication et pour les usages, et en quelque sorte, la civilisation gréco-romaine s'inscrit totalement dans les prémices et dans la tradition culturelle et cultuelle mise en place par les civilisations qui les ont précédées. Il n'y a pas véritablement de rupture, mais un développement et un enrichissement de ces pratiques de fabrication et de ses usages. C'est ce que nous allons aborder dans un petit moment, dans la deuxième partie de ce cours, après une petite pause d'une dizaine de minutes.